17h sur Radio Orient. Bonsoir à tous, votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, Donald Trump annonce des frappes américaines contre l'État islamique au Nigeria. Un Palestinien a tué deux Israéliens dans le nord d'Israël. Enfin, nous ferons le point sur la CAN avec Mounir Kamouri. Le jour de Noël, les États-Unis ont mené de nombreuses frappes meurtrières contre l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump, qui a promis de nouvelles attaques si l'organisation continue de tuer des chrétiens dans le pays. Des frappes approuvées par le Nigeria, qui a fourni des renseignements sur les militants djihadistes. Une attaque commise par un Palestinien aujourd'hui a fait deux morts dans le nord d'Israël au volant de son véhicule. L'assaillant a d'abord renversé un homme de 68 ans, puis il a poignardé une jeune femme dans une deuxième localité. Tous deux ont succombé à leurs blessures. À l'intervention d'un passant, le suspect a été blessé par balle, puis transporté dans un hôpital. Un bébé palestinien de 8 mois a été blessé dans une attaque de colons israéliens près de Hébron, en Cisjordanie occupée. 5 suspects ont été arrêtés par les forces israéliennes. Un hôpital de Gaza suspend la plupart de ses activités, faute de carburant. Seuls les services vitaux de l'hôpital El Aouda à Nousserat sont maintenus comme les urgences. L'armée israélienne annonce avoir bombardé aujourd'hui plusieurs sites du Hezbollah au Liban. Un centre d'entraînement et des entrepôts d'armes ont été visés. Les attaques ont eu lieu notamment à Nabatieh et Jézine, mais aussi dans l'est du pays. En Syrie, au moins 8 morts dans une explosion qui a eu lieu dans une mosquée de Homs. Il y a eu aussi 18 blessés. Elle est située dans un quartier de la minorité alaouite. Un attentat revendiqué par un groupuscule extrémiste sunnite. Enfin, en France, le pic de l'épidémie de grippe approche. Selon la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, il est encore temps de se faire vacciner. Elle rappelle les gestes barrières comme le port du masque en cas de symptômes, ou bien se laver les mains. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Au Nigeria, après les frappes américaines menées le jour de Noël contre les djihadistes, Abuja laisse entendre que l'opération pourrait se poursuivre. Le chef de la diplomatie nigériane affirme que le Nigeria a fourni les renseignements à Washington et que le président Tinubu a donné son feu vert. Les détails avec vous, Nadia Benchir.
Le Nigeria évoque la possibilité de nouvelles frappes contre des groupes djihadistes au lendemain d'attaques américaines menées le jour de Noël dans le nord du pays. Interrogé sur la suite, le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, parle d'un processus en cours et assure que son pays travaille avec les États-Unis ainsi qu'avec d'autres pays. Le chef de la diplomatie nigérienne affirme que les autorités d'Abuja ont fourni à Washington les renseignements ayant permis les frappes. Il dit avoir été en ligne avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio à deux reprises, une première conversation de 19 minutes avant l'attaque, puis un nouvel échange de 5 minutes juste avant son déclenchement. Youssouf Tougar précise aussi que le président Bola Tinubu a donné son feu vert à l'opération. Le commandement américain en Afrique indique sur X avoir frappé à la demande des autorités nigérianes en tuant plusieurs terroristes de l'État islamique dans l'État de Sokoto. À Washington, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, se dit reconnaissant du soutien et de la coopération du gouvernement nigérian. Cette intervention est présentée comme la première action militaire américaine au Nigeria sous Donald Trump. Le président américain, qui affirme que des chrétiens y seraient sous une menace existentielle, s'est félicité sur Truth Social de frappe parfaite en visant ceux qui l'accusent d'attaquer des chrétiens. De son côté, Youssouf Tougar insiste, l'approche du Nigeria contre le terrorisme ne dépend pas de la religion des victimes, musulmanes ou chrétiennes, un argument qui s'inscrit contre la lecture d'une persécution religieuse, une thèse que le gouvernement nigérian et des analystes indépendants refusent de reprendre.
Et puis en France, Michelin restitue volontairement plus de 4 millions d'euros à l'État, une somme liée à des crédits d'impôt perçus pour moderniser une usine en Vendée, finalement fermée en 2020. Le groupe assure qu'aucun remboursement n'était prévu par la loi et Bercy parle d'une démarche juridiquement et budgétairement conforme. Les précisions de Nadia Bencher.
Michelin a versé à l'État 4,3 millions d'euros sous forme de dons, selon un arrêté publié ce vendredi au journal officiel. Le virement a été effectué le 11 décembre dernier au profit du ministère de l'Économie. Le fabricant de pneus précise que cette somme correspond à des crédits d'impôt perçus au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, un dispositif en vigueur en France de 2013 à 2021. Michelin indique avoir fléché l'équivalent de ce montant vers son site de La Roche-sur-Yon en Vendée pour financer sa modernisation, notamment des rénovations d'ateliers et l'acquisition de 8 machines industrielles. Mais l'usine a fermé ses portes en décembre 2020. Le groupe explique avoir décidé, par souci de responsabilité, de restituer à l'État le gain correspondant à ses crédits d'impôt, compte tenu de la fermeture ultérieure du site. Michelin insiste, ce remboursement est strictement volontaire et le cadre légal du CICE ne prévoit aucun mécanisme de remboursement, y compris en cas de fermeture de site ou de réaffectation d'équipement. Du côté de Bercy, on indique que la procédure a fait l'objet d'une expertise approfondie et a été validée comme juridiquement et budgétairement conforme. Le ministère souligne que cette restitution s'inscrit dans une démarche volontaire de Michelin après la commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques dont les conclusions ont été rendues en juillet. En novembre, le sénateur communiste Fabien Gay, co-auteur d'un rapport critique sur les aides publiques aux entreprises, avait rappelé que Michelin s'était engagé lors des auditions à rembourser ses 4,3 millions d'euros dans une perspective éthique. Le ministre de l'économie Roland Lescure avait alors assuré que le chèque serait bien encaissé, indiquant que l'État travaillait avec Michelin pour qu'il arrive à bon port.
Merci Nadia Bencher. C'était le dossier du jour. Dans quelques instants, le point sur le sport spécial Cannes avec Mounir Kamouri. Bonjour Mounir Kamouri, vous nous accompagnez pendant toute la CAN. Ce soir, le Maroc retrouve le Mali, un match décisif, et l'Égypte est en train de jouer actuellement un match décisif lui aussi.
Effectivement, ce soir le Maroc peut déjà se qualifier pour les huitièmes de finale contre le Mali, mais attention, cette équipe est très athlétique, très disciplinée et souvent sous-estimée, et surtout, ils arrivent avec un sentiment d'injustice après l'histoire de la libération tardive des joueurs par les clubs européens et la frustration aussi du match nul face à la Zambie. Les Lions de l'Atlas devront donc être très sérieux dès le début de la rencontre. Et puis l'Égypte, avec le même scénario contre l'Afrique du Sud, avec une possible qualification. Pour le moment, les Pharaons gagnent 1-0 grâce à l'incontournable Mohamed Salah, encore oui. Mais attention, réduit à 10 contre 11 après le carton rouge de Mohamed Hani juste avant la mi-temps, les Bafana pourraient en profiter.
Alors il y a un débat explosif Mounir, un débat qui prend de l'ampleur depuis le début de la CAN. Elle aura donc lieu tous les 4 ans, c'est bien cela?
Exactement, c'est ce qu'a annoncé le président de la CAF officiellement. Ce changement vise à harmoniser le calendrier mondial, mais pour certains sélectionneurs, c'est surtout le résultat d'une pression constante des clubs européens et de la FIFA. Cette décision a fait l'effet d'une bombe au sein du foot africain et c'est l'impression que l'Afrique doit encore s'adapter aux autres au lieu de défendre son propre modèle qui est dénoncé de toutes parts.
Enfin, demain, dans Sports sans frontières spécial CAN, vous vous pencherez sur un autre dossier épineux, un problème majeur de billetterie affectant certains matchs pourtant annoncés complets.
Oui, et selon les sources proches de l'organisation, la cause principale est le marché noir. Des revendeurs ont acheté en masse des billets, espérant les écouler à prix fort, mais se sont heurtés aux nouvelles règles mises en place pour limiter ces pratiques via des applications. Il faut noter que ce qu'il s'est passé avec la billetterie de la CAN est un problème qui peut surgir dans n'importe quelle grande compétition. On l'a déjà vu par exemple avec la finale de la Ligue des Champions à Paris en 2022, où des milliers de supporters de Liverpool ont vécu des difficultés énormes d'accès au stade à cause de défaillances logistiques et de communication. Donc oui, ce qui arrive à la CAN peut sembler dramatique, mais ce type de fiasco arrive aussi ailleurs. Ce qui compte aujourd'hui, c'est comment les organisateurs réparent, tirent les leçons et rassurent les supporters pour la suite du tournoi.
Merci Mounir Kamouri pour ce point sport. On vous retrouve ce soir à 18h20 pour un sport sans frontières spécial Cannes. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Excellente soirée à l'écoute de Radio Orient.